Bonjour, bien-aimés, et bonjour à tous ceux qui nous visitent en ce matin. Merci à Patricia, Othniel, Anaël, Lovely, pour la louange, de nous avoir entraînés dans la louange. Et j'espère que le Seigneur a agréé cette louange en ce matin, et nous, j'en suis sûr. Merci aussi à Patricia pour sa prière. Que le Seigneur puisse me rendre une huile spéciale en ce matin afin que je porte sa parole et que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais de lui seul. Patricia a déjà fait le travail aussi. Elle vous a déjà demandé comment vous allez. Donc, je ne vais pas vous demander comment vous allez. Vous avez déjà dit que vous allez bien. Mais est-ce que vous êtes aussi bien après la louange? Vous êtes mieux, hein? Gloire à Dieu. Exode 15. Vous n'aurez pas de projection, donc prenez vos Bibles. Éteignez vos téléphones. Prenez vos Bibles et Exode 15, 26, et c'est la fin du verset qui nous intéresse. Le Seigneur dit, c'est les dernières phrases du verset, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Car je suis l'Éternel qui te guérit. J'avais dit d'éteindre les téléphones. Exode 15, 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la fin du verset. Mais avant ça, il a dit beaucoup d'autres choses. Hein. Avant de dire je suis l'Éternel qui te guérit, il a bien dit des choses avant. Quand Dieu a créé le monde, il a dit que tout était parfait. Dieu n'a pas créé un monde imparfait. Tout ce qu'il a créé était bon. Mais à cause du péché, péché originel, le mal est rentré dans le monde. Donc là, je ne vous apprends rien. Le mal est rentré dans le monde, mais avec toutes les conséquences, telles que la maladie. Et on va parler de maladie aujourd'hui. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan a été précipité sur la terre. Et là, il a envahi la terre et on est bien mal en ce moment parce qu'il séduit et il fait du mal. On va lire le psaume 6. Le psaume de David. David, à ce moment-là, était malade. Non seulement il était malade, mais en plus il était persécuté. De toute façon, il a toujours été persécuté. C'était sa vie, en fait, la persécution. Depuis le début jusqu'à la fin. Psaume 6. On va lire tout le psaume parce que c'est un petit psaume. Il n'est pas long. Ça dit... au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. On voit l'état de David, non seulement dans la maladie, mais aussi dans la persécution. On voit au verset 3 et 4, David, à cause de la souffrance, supplie Dieu de le guérir. Et même il pensait que Dieu était lent à répondre à ses supplications. Et souvent nous aussi, nous faisons la même chose. On est souffrant, on demande à Dieu de nous guérir, mais on lui dit, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps il devrait supporter encore cette souffrance avant que Dieu ne décide de le guérir? Est-ce qu'on donne l'ordre à Dieu de guérir? Pas du tout. En plus, David, au verset 6, il essaie de négocier en quelque sorte avec Dieu, en lui donnant une raison qui est juste en soi. Il lui dit, est-ce que les morts vont te louer si tu me fais mourir? Est-ce que je vais pouvoir te louer dans ma tombe? C'est une négociation. Alors, fais-moi grâce, guéris-moi. Mais c'est vrai que les morts peuvent louer le Seigneur aussi. Parce que les morts entendent la voix de Jésus. Ne l'oublions pas. Mais quand on souffre, on voit la détresse aussi de David dans sa souffrance. Il dit qu'il est épuisé, il gémit. Chaque jour, il dit, son oreiller est rempli de larmes. Si chaque nuit on pleure comme ça, ça veut dire que vraiment on souffre. Il dit que son visage est amaigri. La souffrance, la maladie fait maigrir. Et parfois, on voit quelqu'un maigrir, on ne sait pas ce que la personne a. On commence à dire, essayons de ne pas faire ça. Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un est malade. Et on ne sait pas de quelle maladie la personne a. Le visage de David était amaigri. Mais ce qu'il y a de bien avec David, c'est que dans toute cette souffrance, il a l'assurance que Dieu ne va pas l'abandonner. C'est ce qui est bien avec David. il a l'assurance que Dieu ne l'abandonnera jamais, car Dieu a entendu ses cris. Et pour nous, c'est pareil, Dieu entend nos cris. Dieu ne nous abandonne pas dans notre souffrance. D'ailleurs, ce même David, plus loin, au chapitre 8, je crois, chapitre 8, versets 3 à 6, il dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Donc, David reconnaît vraiment la puissance de Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il essaie de négocier, mais quand même, il reconnaît la souveraineté de Dieu. Au début, j'ai lu l'Exode. Dieu a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il était avant, il était bon, au milieu, il est bon, et après, il est bon. Sa parole ne change pas. Donc, ce qui veut dire que si Dieu a dit au peuple d'Israël, il y a bien longtemps, je suis l'Éternel qui te guérit, ça veut dire que pour nous, la parole est toujours valable. Je suis l'Éternel qui te guérit. La parole de Dieu ne change pas. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez, dit la parole de Dieu. Et nous avons vu pendant que Jésus était sur terre, il a accompli bien de guérisons. D'un paralytique, Matthieu 9, 7. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, qu'est-ce qu'il a dit au paralytique? Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se leva et il s'en alla. Ça veut dire qu'il était guéri. La belle-mère de Pierre, Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se leva et le servit. La femme atteinte de perte de sang. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. » Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fut guérie à l'heure même. Et puis, il y a tant d'autres guérisons. Les deux démoniaques, Matthieu 8, 28, 34. Deux aveugles, Matthieu 9, 29. L'homme à la main sèche, Matthieu 12, 13. En Jésus, nous avons la guérison. Car il était blessé, la parole de Dieu nous dit, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Dieu peut guérir. Il peut guérir, mais il peut ne pas guérir aussi. Souvenons-nous de Paul qui a demandé à trois reprises au Seigneur de le guérir. Est-ce que Dieu lui a dit, ta grâce, ma grâce te suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oui. Dieu guérit. Dieu peut ne pas guérir. Mais quand Dieu ne guérit pas, Dieu nous donne la force de pouvoir supporter. Il nous donne la grâce de pouvoir supporter. Et le Seigneur aussi nous a donné tout un corps médical et qui nous aide parfois à supporter avec tous les médicaments que nous prenons. Parfois, ça soulage. Même si on n'est pas guéri, mais on est soulagé. Le corps médical qui est là pour nous soigner. Mais il n'y a que Dieu qui peut guérir. Si Dieu dit « je guéris », je guéris. Si Dieu dit « je ne te guéris pas », je ne te guéris pas. Et parfois, le plus souvent, la maladie nous attrape à l'improviste. Hein? Parfois, on va se coucher très bien. Et le lendemain, on a une petite douleur, on a quelque chose, on consulte. Parfois, ce n'est pas très grave. Et parfois, c'est moyen. Et parfois, c'est très grave. Et ça nous permet aussi de voir combien on va se coucher bien, on se lève malade, comment nous sommes petits devant le Seigneur. Notre petitesse devant l'Éternel. Nous ne sommes rien. Quelques causes qui provoquent la maladie. Il y en a plein, hein? Premièrement, nous-mêmes. Nous-mêmes. Notre hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange des trucs néfastes pour la santé? Des petites boissons sucrées? Sans arrêt, un petit coca? Et quand je dis ça, ça arrive vraiment. Il y a des gens, c'est tous les jours. Je ne prends pas mon déjeuner sans avoir mon coca. Et parfois, c'est accompagné d'un sandwich. Et parfois même, nous savons que y a tel aliment n'est pas bon pour nous, mais on le consomme quand même. Par exemple, le chocolat. Il y a plein de gens qui savent que le chocolat, c'est pas bon. Pour eux, en tout cas. Je ne dis pas que le chocolat, ce n'est pas bon. Hein? Mais pour certaines personnes, le chocolat, ce n'est pas bon. Mais mange le chocolat quand même. Quand tu sais que ce n'est pas bon pour toi, ne le mange pas. Parce que ça va te rendre malade. Vous savez, moi je suis Guadeloupéen, je viens du Moule. Et à l'époque, et je dis Guadeloupéen parce que je suis Guadeloupéen, mais en Martinique, les Antilles en général, c'était comme ça. Les gens mangeaient bien. Ils mangeaient des ignames, patates, la banane, les poissons, tous fruits à pain. Tout ça, c'était des aliments qui étaient bons pour le corps. Mais aussitôt, il y a eu une grande enseigne et de grandes enseignes que je tairai le nom qui sont rentrées au pays. Les gens ont commencé à mal manger. Et la maladie est arrivée avec aussi. Et ils sont devenus énormes. Les petits Guadeloupéens qui étaient comme ça sont devenus comme ça à cause de la malbouffe. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger un petit de temps en temps. Mais consommer ça tous les jours, ça nous rend malade. Et je ne parle pas de l'alcool, etc. Et c'est vrai que les anciens aussi, ils partaient à la campagne, ils partaient à vélo, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport, ou ils partaient à pied. Et ils avaient une activité physique. Maintenant, je pose la question dans la salle, là, qui est-ce qui a été faire un petit tour de vélo ou une marche dans la semaine? Oui, il n'y a pas beaucoup, hein? Nous n'avons plus d'activité sportive, d'activité physique. Et ça aussi, ça nous rend malades. Donc, la maladie vient de nous-mêmes. Et quand on n'a pas d'activité sportive, il y a plein de trucs, plein de maladies, hein, diabète, hypertension, etc., etc., etc. Et il est donc conseillé d'avoir une activité physique. On n'a pas besoin d'aller faire du Teddy Riner ou Sunbolt ou j'en sais quoi. Mais une petite marche de temps en temps, deux fois dans la semaine, ça aide le cœur. Ça aide le cœur. J'espère que pour dans la salle, il n'y a pas ça, mais ça existe, la cigarette. Parfois, c'est écrit, ça tue. La cigarette, la drogue, le petit shit, l'abus d'alcool, un petit punch tous les jours, trois fois par jour, ça devient plus un petit punch, c'est un grand punch. On n'abuse pas du petit punch, de l'alcool. Tous ces abus nous rendent malades. Et c'est pas Dieu qui nous a rendu malades, hein, c'est nous-mêmes. Il y a aussi le péché qui peut nous rendre malades, mais ça, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Il y a aussi le surmenage. Le surmenage nous rend malades. Parfois, on veut tout faire. On ne veut pas se reposer. Dieu, qui est Dieu, il a dit, j'ai fait le monde en 6 jours, et le 7e, je me suis reposé. Et nous, on veut pas se reposer. Un jour, c'est 24 heures. Essayons de faire ce qu'on peut faire dans un laps de temps, dans ces 24 heures. Mais on veut tout faire. Et ça tourne. Et ça tourne. On ne se repose pas. Pour les femmes, certaines femmes ont toujours un balai. Il ne faut pas qu'il y ait une poussière dans la maison. Il faut toujours astiquer. À un certain moment, il faut se poser. Il y a cet homme-là, Épaphrodite, compagnon de Paul, qui était malade. Et quand on lit, c'est en Philippiens 2, 27, et quand on lit le verset 30, il dit, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier votre absence dans le service. » Et c'est vrai que dans nos églises, il y a du surmenage parce qu'il y a certains frères et sœurs qui sont là et ils font tout. Il y a d'autres qui ne se lèvent pas pour aider. Le frère là, il a dû supplier et il était surmené. Quand Dieu nous, la parole de Dieu nous dit qu'on est sauvé pour servir. Et quand on vient, on est dans une communauté, on laisse tout le
boulot, entre guillemets, pour les autres, il y a du surmenage. On a besoin, dans une église, et je parle de chez nous, on a besoin de serviteurs et de servantes. Pour justement, pour que les autres ne puissent pas s'épuiser. À un certain moment, ils ne peuvent plus, hein. Il y a aussi l'âge. L'âge nous rend malade aussi. On est tout jeune, on a les muscles, on saute, et puis à un certain moment, on commence à descendre. Tu te baisses et tu entends crac et tu te dis « Oh là !» Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que tu te rends compte que tu vieillis. Il y a des gens qui vieillissent très bien. Mais la vieillesse apporte aussi des maladies. Là, Isaël meurt, par exemple. Les problèmes de mobilité, comme je disais. Ecclésias 12, au verset 3. Il dit, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent. On était forts, mais on commence à se courber. Nous sommes plus les mêmes. Où celle qui moule s'arrête. Pardon? 3:12. Oui, il y a un verset. 3:12. Où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Avec l'âge, la maladie arrive aussi. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ça veut dire en gros qu'ils commencent à porter des lunettes. Et même s'ils ne portent pas des lunettes, ils commencent à... Je vois mon épouse Janine, chaque fois qu'on se moque avec les enfants, je dis aux enfants, regarde. Elle porte des lunettes, hein, mais elle ne veut pas porter de lunettes. Alors, je dis aux enfants, regarde. Et on se met à rigoler ensemble. Qu'est-ce que vous rigolez? Mais porte les lunettes. Ah, je ne supporte pas les lunettes. Ah oui, mais essaie de supporter les lunettes. Eh bien, il y a aussi Satan. Et quand on se souvient de l'histoire de Job, on voit très bien que la maladie n'est pas venue de Dieu. La maladie, c'est Satan qui a touché Job. Et ne nous trompons pas, Satan touche encore aujourd'hui les gens. Parfois, dans nos églises, on ne veut pas entendre ça. On dit, oh, c'est pas... mais c'est biblique. Si c'est biblique, pourquoi ne pas en parler? Satan touche la vie des gens. Et il faut le dire. Job n'avait commis aucun péché. Hein? Aucun péché. D'ailleurs, le Seigneur même lui dit, regarde comment mon serviteur, il est intègre et droit. Mais ce qu'il a enduré après, waouh! Je ne sais pas si moi je pourrais supporter ça. Hein? Tout ce que Job a supporté. Mais Dieu a manifesté sa puissance après en guérissant Job. Hein? Et puis il y a aussi la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu. On est malade parfois. Dieu permet ça. Et on se souvient de l'aveugle né. Et la question des disciples, qui a péché? Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui? Mais quand on réfléchit, ils disent l'aveugle né. Ça veut dire que c'est un tout petit bébé qui est né aveugle. Mais qui a péché? Est-ce que le petit bébé
aurait péché, même si la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Et quand on réfléchit, est-ce que le petit bébé, il est né comme ça, est-ce qu'il aurait péché? Peut-être, hein? Mais en tout cas, la réponse de Jésus, c'est pas ça, hein? Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. En gros, c'est pour que tout puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Parfois, nous sommes malades, mais c'est pour que la manifestation de la gloire de Dieu puisse être réelle. Et puis, on a toutes ces maladies physiques que nous avons vues, mais on a aussi ces maladies spirituelles. Et ça, c'est pas parti facile, c'est pas gagné. Quand on a vu on a vu David qui dit au verset 2, ne me punis pas dans ma colère et ne me châtie pas dans ta fureur. David pensait que il était malade, c'était à cause de Dieu. Parce que David, ça vient tout de suite après l'épisode de David. Et David pensait que c'était à cause de son péché qu'il était malade. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et nous-mêmes, parfois, nous raisonnons de la même manière que David. On voit un frère, on voit une sœur, on voit quelqu'un de malade. Et on se pose la question, est-ce que cette personne n'aurait pas péché? Pourquoi cette personne reste malade comme ça? Parce que vous savez, il y a des maladies qui viennent et qui partent. Et il y a des maladies qui sont là et qui perdurent. Des années, des années, des années. Et dans notre église, on sait très bien que nous avons une sœur qui est malade depuis la naissance de sa grande fille. Et cette maladie la tient encore. Mais la sœur n'a pas forcément péché. Et pourtant, la maladie est là. Ça dure. Mais souvent, on se pose la question, est-ce que le frère ou la sœur, la personne, n'a pas péché? Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché? Mais quand nous sommes malades, on ne se pose pas la question, est-ce que j'ai un péché caché? On voit toujours pour les autres, mais pour soi, on ne voit jamais. Mais parfois, la maladie, c'est la conséquence ou les conséquences d'un péché ou des péchés que nous avons. Péché non confessé, parce que ça peut nous atteindre, c'est nos enfants de Dieu. Corinthiens 11, 30 nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre de morts. Vous voyez que la maladie peut même tuer. Péché non confessé peut traduire à maladie et peut traduire à la mort. Et il parle de mort physique. Mais la mort spirituelle est aussi là. Deutéronome 28, 15, 22 et 27. Vous
Alors, Deutéronome 28, verset 15. Il dit, si tu n'obéis pas, ou si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au verset 22, il y a toute une liste, et au verset 22, l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est la conséquence du péché, en gros, parce que si on n'obéit pas à la loi de l'Éternel, c'est toute cette liste. Au verset 27, l'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. La question est-ce que Dieu, qui est un Dieu d'amour et de guérison, puisqu'il a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », punirait-il quelqu'un en envoyant des maladies sur quelqu'un? La réponse est non. Mais c'est les conséquences de nos péchés qui envoient la maladie sur nous. C'est ce que l'Éternel dit dans sa parole. Parce que Dieu, il a dit, il a un projet de bonheur, de paix pour chacun d'entre nous. Donc son but, ce n'est pas de nous rendre malades. De nos jours, dans notre société actuelle, on minimise le péché. Et ça nous arrive, nous aussi. On ne parle plus de péché, mais on dit nos fautes. On va le rabaisser. Nos manquements, nos erreurs de jugement, mais on ne dit pas nos péchés. On ne dit pas mon péché. D'ailleurs, certains même hiérarchisent le péché. En haut, ça descend, il y a une graduation, et sans nommer le nom de certaines religions, il y a les sept capitaux. Il y a sept. Et après, si tu fais les autres, c'est pas très grave, mais les sept là, faut pas les faire. Un péché, c'est un péché devant l'Éternel. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons la même chose. Hein? Parfois, on essaie de hiérarchiser le péché. Il y a ce pharisien qui était debout après sa poitrine, disant à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et il commence à dire qu'ils sont ravisseurs, qu'ils sont injustes, qu'ils sont adultères. Ou même comme ce publicain qui était à côté de lui. Le publicain était là, il priait tranquillement, il ne sait pas ce que le publicain dit, mais je ne suis pas comme lui. Nous ne faisons pas la même chose de temps en temps, ou parfois nous ne faisons pas ça. Parfois, on dit je ne suis pas adultère. C'est vrai. Tu n'es pas adultère. Mais dans ton cœur, la sœur Josiane, là, moi-même, j'aime pas cette sœur-là. Elle parle trop. N'est-ce pas un péché? L'orgueil qu'on a là, moi je, tu n'es pas adultère, mais moi je, n'est-ce pas un péché? Regardez les gens d'en haut, je suis meilleur que lui, je chante mieux que lui, je chante mieux qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a à faire sur le truc, l'estrade à chanter? Tu n'es pas adultère, mais tu pêches. Tu n'es pas meurtrier. Tu n'as jamais tué quelqu'un. Mais tu regardes quelqu'un. Oh, ça là. Oh. Et dans le monde séculier, parfois, on regarde tu. Parce qu'un mauvais regard, tu as un couteau dans le ventre. Tu n'es pas meurtrier, mais tu regardes mal Sarah. Regarde mal Claude. Tout ça, ce sont des petits péchés spirituels, des maladies qu'on a. Et tous ces péchés nous éloignent de Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes. Vous voyez, crimes. Et c'est vrai que nous n'échappons pas hein, à la tentation du péché. Qui est-ce qui veut dire qu'il n'a jamais été tenté ici? Levez la main. Vous voyez, on a tous été tentés par un péché quelconque. Et souvent nous sommes en guerre avec le péché. Paul disait, car je fais le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On est constamment en guerre. Qu'est-ce que nous regardons à la télévision? Pour les jeunes et les moins jeunes, les clips vidéo. Un chanteur ou une chanteuse fait un nouvel album. Il y a une vidéo qui suit pour faire la promotion. Qu'est-ce qu'on voit? Des belles femmes, nues. Est-ce qu'on a besoin de mettre une femme nue dans une vidéo pour accompagner un clip? Et parfois, ça n'a rien à voir avec la femme nue. Il y a un artiste très connu qui a publiquement déclaré que son inspiration lui vient de Lucifer. Publiquement. Et vous écoutez ça. On l'écoute. On dit, ah, c'est un grand, il a une belle voix. Mais lui, il te dit, son inspiration lui vient de Lucifer. D'ailleurs, il a même dit, j'en parlerai au diable. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce des paroles douces? De bonnes paroles qui servent à l'édification? Qui communiquent une bonne grâce à ceux qui l'entendent? Ou alors, on est tout le temps en train d'avoir de gros mots dans la bouche. Vous savez, il y a des gens, chaque fois qu'ils sortent
une phrase, dans la phrase, il y a au moins trois gros mots. Ça commence par un gros mot, au milieu, il y a un gros mot, et ça se termine par un gros mot à la fin. Est-ce que ça apporte une grâce aux gens, ça? Moi, je dis que non. Les films que nous regardons, il n'est pas interdit d'aller au cinéma, hein? Il n'est pas interdit de regarder la télévision non plus. Mais qu'est-ce que nous regardons quand on regarde un film ou des séries? Surtout les séries, parce que maintenant, il n'y a que ça. Les séries qui captivent les gens et tu restes là, tu passes épisode par épisode, tu passes une journée à regarder une série ou toute une nuit. Et Netflix, et Amazon, et Disney+, et Paramount+, et je ne sais pas, il y en a MyTF+, etc., etc. Et il n'y a que ça en ce moment. Et souvent dans ces séries, l'adultère. Je suis avec celui-là et demain il me plaît plus, je suis là et ça change. Et c'est ce que nous regardons. Et on prend plaisir à le regarder. Est-ce que c'est bien de regarder tout ça? Il y avait une petite série qu'on regardait après le journal de 20 heures, je ne sais plus comment ça s'appelle, et on le regardait parce qu'on trouvait ça intéressant. Et puis tout d'un coup, on a commencé à voir dans le truc deux hommes qui s'embrassent, deux femmes qui s'embrassent. Et encore, c'est fini. On ne regarde plus ce truc-là. C'est terminé. Les films d'horreur, dites d'horreur. On se plaît à regarder ça parfois. Même en tant qu'enfant de Dieu, il faut pas croire, hein, il y a des enfants de Dieu qui se plaisent à regarder ça. Pourquoi tu veux te faire peur? Parce que quand tu regardes ces trucs-là, tu as peur après. Et tu te plais à te faire peur. Et spirituellement, il y a des choses qui sont derrière ça que nous ne voyons pas et qui font du mal à l'âme, à notre âme. J'ai une collègue, elle a été voir un film comme ça. Elle m'a expliqué le film, je lui ai dit, moi je ne connais pas. Parce que quand elle est rentrée chez elle, d'ailleurs elle avait peur, elle n'est même pas rentrée chez elle, elle a été dormir chez son copain. Ils ont été se coucher. Durant la nuit, elle a entendu des voix dans la maison. Elle a tapé, et le monsieur, il dort, il ne s'occupe pas. Je vous dis ce qu'elle dit. Finalement, le monsieur s'est réveillé. Ils vont voir, c'est la télé qui est allumée. Ah oui, mais tu as oublié d'éteindre la télévision. Elle regarde. Elle voit les chaussons du monsieur sur la télévision. Est-ce que c'est moi qui ai mis les chaussons sur la télé aussi? Non. Ils ont éteint la télé, ils ont été se coucher. Plus tard encore dans la nuit, il y a des manifestations. Elle voit la lumière allumée dans la salle de bain. Il y a la lumière allumée. Ils se sont réveillés. Avant, il n'y avait pas de lumière. Et il y a eu plein de manifestations. Ils ont entendu des bruits, des trucs. Quand on regarde des films comme ça, des trucs comme ça, ça rentre dans ta tête et tu ramènes ce genre de choses à la maison. Et après, tu t'étonnes que tu entends des bruits. Et souvent chez nous, je parle des Antilles, je parle de moi, hein, Guadeloupe, on va prendre du sel et on va mettre du sel dans les quatre coins de la maison pour chasser les démons. Et on dort avec la lumière allumée parce que ça va chasser le démon. Quand on regarde des trucs comme ça, et je dis ça, c'est pour les jeunes aussi, hein, quand on regarde des trucs comme ça, on ramène de mauvaises ondes, on ramène les démons chez soi. Qu'est-ce qu'on écoute? Quel type de chanson qu'on écoute? Il y a certains chrétiens qui disent, j'écoute que de la musique chrétienne. Et il y a d'autres qui disent, il y a des musiques qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ne sont pas mauvaises à entendre. Chacun fait comme il veut. Moi, ça m'arrive d'écouter un petit Goka, par exemple. Ce n'est pas forcément chrétien, un Goka. Ça peut m'arriver d'écouter un petit Skatcha. Skatcha, ce n'est pas chrétien. Mais ça dépend de ce que j'écoute de Skatcha. Mais pour les jeunes et pour nous, je me souviens que quand j'étais avec les préados, pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez, on avait fait un truc sur les Illuminati. Vous vous souvenez, Naël et Sarah? Et il y a des choses qu'on découvre que vous ne pouvez même pas vous imaginer quand on regarde certains clips vidéo de certains artistes, surtout des artistes américains. Il y a des messages subliminaux dans tous ces clips-là. Tu ne vois pas, mais ça rentre là. Et ça te rend malade. Ta santé spirituelle est atteinte. Il y a pas longtemps, hein, peut-être avant-hier, il y avait une sorte d'émission à la télé, 70 ou je ne sais plus quoi, 80, les années 80 ou je ne sais pas quoi. Et il y a une chanson qui date des années, je ne sais pas en quelle année ils ont composé ça, si c'est dans les années 80 ou même avant. Ils parlent de démons de minuit. Et quand ça rentre dans ta tête, toute la journée, ça reste là. Il faut juste dire au Seigneur, enlève-moi ça de la tête. Ce n'est pas forcément parce que tu l'as écouté, mais tu peux passer dans un magasin, il y a ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Parfois, on écoute des chansons avec une très belle mélodie. Ça nous pourrit. Parfois, c'est des chansons mélancoliques. Il y a des gens qui écoutent des chansons mélancoliques, des trucs qui parlent de suicide. Ta santé spirituelle, elle est atteinte quand tu écoutes ce genre de musique. Tu es déjà au fond du trou. Tu es peut-être là comme ça dans le trou. Tu écoutes la chanson mélancolique. Qu'est-ce que tu crois que ça va te faire? Ça va te faire plonger encore. Tu iras au fond du trou. Ça ne va pas te relever. Tu te rends encore plus malade. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que nous pensons? Là, vous êtes là. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête, hein, Viviane. Et toi, tu ne sais pas ce que je pense non plus. Tu vois? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous avons dans nos pensées? Est-ce que ce sont des pensées négatives? Je suis un bon à rien, parce qu'on m'a dit ça depuis que j'étais jeune. Et puis je suis avec ça toute l'année, ma vie. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je suis un bon à rien, je suis une bonne à rien. Dieu t'a dit que t'es un bon à rien. Tu végètes des pensées négatives. Et nous avons aussi les pensées parfois impures. Est-ce que ça facilite notre bonne santé spirituelle? Quand on a des pensées impures, forcément, nous sommes un être impur. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des actions impures aussi. C'est de nous penser que naissent la haine, la méchanceté, la jalousie, la vengeance, la cupidité, la violence, toute forme de avec toutes ces formes, la colère, les conflits, les échecs dans nos vies, les échecs dans nos vies. Si on se permet d'ouvrir la porte de nos pensées à Satan, il va s'infiltrer, parce que c'est ce qu'il veut de toutes les façons. Il va s'infiltrer et il n'hésitera pas à prendre le contrôle. Il n'hésitera pas à prendre le contrôle de nos pensées. Méfions-nous, hein. On dit que Satan n'est pas puissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Satan fait des dégâts. Et en faisant ça, il vient ébranler notre foi aussi. Hein? Souvenez-vous, Dieu a-t-il dit, il met des doutes comme ça dans ta tête. Et toi qui avais une foi solide, pourquoi? Parce que tu as donné accès à Satan, à tes pensées. Nos fréquentations, qui est-ce qu'on fréquente? Heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assied pas. Qui est-ce qu'on fréquente? Avoir des amis, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. On peut avoir des amis, mais il faut choisir ses amis. Moi, je n'en ai pas, à vrai dire, des amis. J'ai des fréquentations, je sais pas, mais des amis, je n'en ai pas. Et quand j'ai rencontré mon épouse, on a dit qu'on allait faire un chemin ensemble. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, toi, moi, j'emmène personne chez toi. Et toi, tu n'emmènes personne chez moi. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que tu n'aies pas d'amis, mais je ne veux pas voir les gens traîner à la maison à tout va. Parce que quand les gens commencent à traîner chez toi comme ça, ah, mais tu as entendu la voisine là, blablabla, blablabla, blablabla. Médisance. Ce n'est pas bon. J'avais un voisin. Il était juste en face de chez nous. C'était l'ami de mon père. Mais tous les après-midi, voisin, il vient, il parle. Oh, mais on peut mettre bitin à cette table-là. Hein? Il venait tous les après-midi prendre le petit punch. Il n'était pas méchant, hein, le monsieur. Mais venir tous les jours chez moi prendre le petit punch, et c'est pas le contraire. Mon papa n'allait jamais à côté, hein, parce que lui, sa bouteille, c'était pour lui. Mais il venait vider la bouteille à la maison. Il faut qu'on choisisse nos amis. Parce que notre vie sera polluée après. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Si tu prends un fruit, une pomme, la pomme, elle est saine. Tu prends une pomme qui a un verre ou deux verres dedans et tu mets avec la pomme saine. Qu'est-ce qui va se faire pour Dieu? Et bien, la pomme saine sera polluée par la pomme pourrie, en quelque sorte. Et bien, c'est ce qui se passe quand on ne sait pas choisir nos amis. On choisit mauvais amis, et puis après, il nous incite à aller en boîte de nuit. Il t'incite à « Oh, mais essaie ça. Pas bon, tu verras, tu vas planer. » Et puis, tu vas essayer. Et puis, tu vas essayer, puis tu vas plonger dedans. Et tu es pollué. Et ta vie peut être foutue après. Et surtout si tu es enfant de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de la parole de Dieu. Tu as cet ami-là, mais qui va faire en sorte à ce que tu t'éloignes de Dieu, parce que tu vas faire ce que lui fait. Et tu ne vas pas refuser de faire ce que lui fait. Surtout quand tu es jeune, et tu te dis, ben, lui fait ça, c'est pas bon, mais il faut que, pour que je puisse être accepté, ben, je fais. Dieu avait prévenu le peuple d'Israël, a dit, quand vous allez rentrer dans le pays que je vous donne, ne vous mettez pas avec les gens du pays, ça va vous polluer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a désobéi. Et ils ont été pollués. Ils ont été pollués. Et c'est pareil, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est préférable chercher un petit chrétien ou une petite chrétienne que d'aller te mettre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que la vie de cette personne va te polluer après. Cette personne voudra que tu fasses ce qu'elle fait. Proverbe 6, 27, 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Proverbe 6, 27, 28. Si tu mets le feu, tes vêtements vont être brûlés et toi aussi tu vas te brûler. Si tu marches sur du charbon, ben automatiquement, si tu marches sur du charbon sans chaussures, tu vas être brûlé. Il faut choisir nos fréquentations. Il y a personne, des gens que nous fréquentons, mais aussi il y a les lieux que nous fréquentons. N'allons pas n'importe où. Ne mettons pas nos pieds n'importe où. Notre santé spirituelle est en jeu. Le frère parlait la dernière fois, il a fait son témoignage. Il disait qu'il était au pays Marie-Galante, je crois. Et ses cousins et cousines, en tout cas les gens de sa famille, lui ont dit, allons en boîte de nuit. Lui et sa famille, ils ont résisté. Ils ont dit, c'est pas notre truc, on a déjà laissé ça, on l'a déjà vomi. Mais il y a d'autres qui peuvent pas résister et qui y vont. Et il n'y a pas meilleur endroit où les démons s'occulent que dans les boîtes de nuit. une simple amitié peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous en éloigner. Et là, je termine. 3 Jean 1 et 2. L'ancien Agaüs, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand nous voyons, on lit ces deux versets, on se rend compte que Gaius avait une bonne santé spirituelle. Mais sa santé physique était touchée. Et c'est ce message que le Seigneur veut nous adresser aujourd'hui. Que notre santé spirituelle soit bonne, même si nous avons des problèmes de santé physique. Mais le plus important, c'est l'état de notre santé spirituelle. Autre chose avant de terminer, souvent, je vois de belles dames là, et je vois de beaux garçons. Souvent, nous prenons plus soin de notre santé physique que de notre santé spirituelle. On est les petits glosses, il faut qu'on paraisse beau et belle. Gloire à Dieu. Et la santé spirituelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Que Dieu nous bénisse.